Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour, oui.
Alors nous allons dans ce premier épisode faire un peu plus ample connaissance avec l'homme que vous êtes aujourd'hui, produit, si je puis dire, de ces années égarées. Dans le monde de la psychosociologie, votre nom est une référence.
Oui,
vos ouvrages, dont La psychologie des minorités actives ou L'âge des foules, sont traduits dans une dizaine de langues. Qu'est-ce que c'est la psychosociologie ?
Mais la psychologie sociale, c'est la science qui voudrait donner une sorte de permettre de connaître de manière l'aspect subjectif des phénomènes sociaux, si on peut dire ça de manière abstraite, mais en même temps d'étudier un certain nombre de processus qui sont complexes, par exemple les processus de communication, le processus de pensée collective, le processus de langage. Donc la psychologie sociale s'occupe de ces processus qui sont à la fois massifs, comme par exemple le processus des foules, mais qu'aucune discipline sociologique, par exemple économique, ne pourrait expliquer sans tenir compte de ce vécu des êtres humains.
Comment est-ce que le petit Roumain que vous étiez est parvenu jusqu'à la psychosociologie ? Pourquoi cette voie ? La rencontre d'un maître ? Comment ça s'est passé ?
Mais ça s'est passé d'abord à la recherche d'une vie. C'est-à-dire que lorsque je suis venu à Paris, j'ai essayé d'apprendre un métier.
C'était le vœu de votre père, de toute façon, de vous apprendre un métier.
Oui, d'apprendre un métier. Et comme je ne pouvais pas faire l'école polytechnique pour laquelle j'aurais eu des dons, par exemple faire des mathématiques, où je pourrais pas faire j'aurais pas pu faire de la philosophie puisque ceci menait à l'enseignement et moi à ce moment-là je travaillais dans la couture, enfin dans la confection, et on a créé un enseignement nouveau qui est celui de la psychologie, et ça résonnait avec moi parce que au fond je le raconte un peu dans mon livre. Après tout, l'action collective, l'action avec les autres a été toujours une partie assez intégrante de ma vie. Et alors la psychologie sociale, bon, ça répondait à ce qui m'intéressait. Et là, j'ai rencontré quand même un homme qui s'appelait Daniel Lagache, qui était psychanalyste, mais qui était en fait le créateur de cet enseignement de psychologie à la Sorbonne à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis entré en psychologie sociale.
Alors on va continuer avec ce qu'on appelle communément maintenant un CV. L'Europe vous a déjà honoré, ce qui ne peut que satisfaire votre fils Pierre, ministre délégué aux affaires européennes. Vous avez reçu en effet en 1989,
oui,
le prix européen de sociologie et sciences sociales. Est-ce que vous êtes sensible aux honneurs ?
Personne n'est insensible aux honneurs, ne soyons pas faucheton, si je puis dire. Mais ce n'est pas les honneurs qui font ma vie, si vous voulez. Je suis sensible parce que les collègues reconnaissent son travail, parce que j'ai formé des étudiants, parce que j'ai des lecteurs. Oui, c'est des choses, bien sûr, qui soutiennent cet effort assez difficile qui consiste à faire de la recherche.
Alors, quelques questions demeurent maintenant essentielles et qui pourraient d'ailleurs relever quasiment du questionnaire de Proust. Est-ce que vous aimez Proust ?
Ah oui, c'est pour moi l'auteur de référence. J'en parle de lui.
Oui ?
C'est quand même l'homme dont je me suis nourri pendant longtemps.
Quel fait historique vous impressionne le plus ?
Mais il y a deux faits historiques qui m'impressionnent le plus, à savoir d'une part la création d'Israël. Non seulement parce que je suis juif, mais parce que ça me paraît un miracle historique. Et d'autre part, la chute du communisme.
Quelles sont vos définitions des mots ? Vérité, amour, oubli ?
Mais la vérité est une catégorie, je pense, éthique. C'est quelque chose qui nous conduit par rapport au réel, nous fixe par rapport au réel. L'amour, pour moi, c'est une maladie, c'est quelque chose c'est une passion qui nous consume. On ne s'en sort jamais très bien de l'amour. La troisième?
L'oubli.
Oh, je n'oublie pas. Enfin, l'oubli, c'est une sorte d'absence momentanée de la mémoire. C'est une excuse que la mémoire nous fait de temps en temps de ne pas être là.
Croyez-vous en Dieu?
Non.
Durant 15 épisodes, nous allons, Serge Moscovici, partir ensemble en d'autres lieux. Nous allons découvrir des gens qui furent vos proches. Le début de cette histoire commence en Roumanie. Quand, comment, avec qui, tout vient à point, à qui c'est attendre.
Je suis né en Roumanie, sur le bord du Danube, en juin 1925. Je dis je suppose parce que j'ai eu tellement de faux papiers qui sont mêlés avec les vrais et les dates de naissance sont tellement variées que parfois j'ai des incertitudes. Mais disons que c'est une bonne date d'être né en juin 1925 sur le bord du Danube à Braila, qui est une petite ville assez poussiéreuse, mais dynamique, dans laquelle vivait toute une série, comme ça, confusément, des communautés très, très diverses. D'abord, bien sûr, les Roumains, qui étaient les Roumains, je dirais, ethniques, puisque nous étions aussi des Roumains, des citoyens roumains, les Juifs, des Grecs, des Turcs, des Tziganes.
Mais est-ce que toutes ces communautés se mêlaient? Est-ce qu'on vivait beaucoup ensemble?
On vivait, oui, mais on se séparait en même temps beaucoup.
Il y avait jour et nuit.
Oui, il y avait le jour et la nuit. Il y avait une sorte de retrait de chacun sur soi. Et heureusement qu'il y a un romancier, Panaïtistrat, dont on parle très peu aujourd'hui. On parle beaucoup d'Iliade et de Cioran comme intellectuel et écrivain roumain. Beaucoup moins de Panaïtistrat, et pourtant était un écrivain beaucoup plus important, me semble-t-il. Donc Panaïtistrat raconte Braila, il raconte la vie à Braila, les personnages, les rues poussiéreuses, et un peu endormi, enfin quelque chose un peu oriental. Et donc je suis né à Braila d'un couple que je suppose qu'il a été mal marié puisqu'il s'est séparé très vite. Donc mes parents du côté paternel venaient de Russie, probablement de la région de l'Odessa. Ils sont arrivés dans les années au début du 19e siècle, quand le tsar a commencé à recruter, d'enrôler des juifs dans l'armée. Et vous savez, on les prenait très très jeunes, à l'âge de 12-13 ans, et on les gardait pendant 25 ans. Donc c'est comme ça que la famille paternelle est arrivée en Roumanie, et elle habitait Braila. Et ils ont toujours travaillé dans le... dans l'agriculture, dans le blé, dans le... ils avaient des moulins.
Ce qui est étonnant parce qu'à l'époque, me semble-t-il, les Juifs n'avaient pas le droit de posséder de la
mais
terre.
Mais ils ne possédaient pas de la terre. Ils pouvaient travailler avec les boyards, ils pouvaient être administrer les...
Ils le faisaient avec bonheur.
Oui. Et bon, ils s'étaient intégrés dans cette vie rurale. Après tout, ils venaient de la Russie, c'était pas loin, c'était à peu près la même vie, la même terre, une terre très riche. Alors, tandis que les parents de ma mère sont venus beaucoup plus tard.
Les Marcovici.
Les Marcovici. Ils sont venus beaucoup plus tard, je pense à la fin du 19e siècle. Toujours d'Odessa, d'ailleurs. Enfin, le père de... ou le grand-père, oui, le père de ma mère. Il était de Galicie. C'était un... Il est allé apprendre, je sais pas, le Talmud à Odessa, parce qu'il y avait une école, paraît-il, célèbre. Et là, il est tombé amoureux d'une fille qui était plus riche. Et puis, il pouvait pas se marier pour je sais pas quelle raison. Et donc, ils sont réfugiés en Roumanie, à Galați. Alors, en fait, dans la réalité géographique, Galați est un port, la même chose qu'un port comme Braila, un peu plus grand, un peu plus actif, et qui est devant Braila. Mais dans ma mémoire, ils sont opposés, parce que ces deux familles ont toujours été opposées. Et donc, j'ai donné la description de ma géographie mentale, plutôt de celle de la géographie réelle, mais en fait, ces deux ports. Et probablement, est-ce qu'ils se sont rencontrés ou est-ce dans le temps ils ont été mariés? Parce que vous savez, dans le temps, on était mariés. Mais je pense qu'ils se sont aimés pendant un certain temps, du moins. Et donc, ma mère est venue habiter à Braila. Et puis, comme je raconte dans mon livre, elle a eu une autre fille, donc j'ai une sœur qui habite maintenant en Israël, et je pense qu'elle a eu un troisième enfant qui est mort. Mais ça, c'était quelque chose qui restait dans les histoires orales de la famille, on n'a jamais pu vérifier, ni auprès d'elle, ni auprès de lui.
Alors, le divorce de vos parents, la séparation de vos parents, on aura l'occasion d'y revenir lors des prochains épisodes, marque directement votre destin, parce que un peu comme vous décrivez les deux familles, eh bien ces deux familles vont se scindre, vont se séparer définitivement.
Oui, mais c'était comme les guelfes et les gibelins, vous voyez, je veux dire, c'était dans le temps comme les mariages étaient les mariages de famille. Les haines étaient aussi des haines familiales. Hein. Et je pense que, étant donné que la famille de mon père était un peu plus ancienne et à ce moment-là, je pense, plus aisée, il se croyait aussi, comme on disait en yiddish, des pourres, c'est-à-dire de la noblesse. Et donc, il a fait un mariage en dessous de son rang. Et donc, je pense que ça aussi a joué dans cette séparation très forte des deux familles.
Alors, votre mère part avec votre sœur.
Oui.
Vous partez avec votre père, mais en fait, pour assez peu de temps, puisque vous allez vivre, vous, chez vos grands-parents.
Oui.
Et votre père, lui, va partir dans une autre ville.
Alors, donc, je suis parti avec... Il m'a laissé, hein. Il m'a laissé chez ses grands-parents.
Chez ses parents.
Chez ses parents, oui. Et donc, puis il est parti parce qu'il travaillait quand même. Et donc, il est parti chercher une situation, comme on dit, parce qu'on était on était pratiquement après la grande crise des années 30, après le krach de 29 de New York. Et alors, il a repris, si vous voulez, le métier de sa famille, c'est-à-dire, il est allé en Bessarabie, et là, il est entré dans le commerce de grains, dans l'export de grains. J'ai essayé de vérifier, mais je pense que je vais aller à Trieste pour le vérifier, mais je pense qu'il vendait des grains pour une entreprise qui s'appelait Continexport, qui achetait des entreprises italiennes, qui achetait des grains en Roumanie. Et donc, il s'est installé à Cahul. Et une fois installé, c'est-à-dire, il se louait une maison, etc. Il s'est pris une gouvernante qui s'occupait de la maison. Il m'y a amené.
Alors, avant, je voudrais qu'on reste un petit peu chez vos grands-parents. C'était des gens très pieux, votre grand-père paternel notamment.
Alors oui, disons, je pense que cette famille était très pieuse parce que je suppose avoir un grand-grand-père qui aurait écrit un rouleau de la Torah. Oui, sans faire de faute. Ça, c'est important. Parce
Mais oui,
sans faire de faute. Et ils étaient ce qu'on appelle hassidim. Mais les hassidim, ce n'est pas des loubavitchs d'aujourd'hui, les hassidim de ce temps-là. C'était des croyants un peu gays qui... populaire, c'était une religion populaire, disons, et le rabbin n'avait pas cette place dominante qu'il a aujourd'hui dans les différents sectes hassidiques. C'était plutôt un sage qu'un leader. Et donc, mon grand-père faisait partie de ces hassidim et menait une vie religieuse assez rigoureuse. Et donc, j'ai été initié par lui. Parce que mon père aussi était croyant, mais c'était un ritualiste, si vous voulez. Il faisait bon ce qu'il fait, mais mon grand-père, il croyait vraiment. Et il a eu, dans ce sens-là, une influence sur moi, parce qu'il m'a introduit à la fois dans le rituel de la vie juive, dans la beauté, en fait, du rituel de la vie juive, dans ce désir de lire, et puis dans la Bible.
Une des plus grandes chances que l'on puisse avoir dans sa vie est de n'avoir pas été heureux dans son enfance. J'ai été très malheureux, écrivez-vous.
Oui.
C'est vrai.
Oui, j'ai été très malheureux. Ce divorce entre mes parents commençait très tôt, d'une part. Et puis, je n'ai jamais trouvé une place, si vous voulez, ni auprès de mon père, ni auprès de ma mère, parce que je pense que je ne peux pas me prononcer sur ma mère, puisque je ne la connaissais pas, je la connais. Mais mon père n'a jamais su faire une place à un enfant dans sa vie.
Lors de notre second épisode, Serge Moscovici, nous retournerons à Braila. Nous vivrons avec vous, avec votre grand-père paternel, un Shabbat ordinaire. Nous revivrons ce divorce de vos parents et la conséquence donc de la crise de 1930 en Roumanie.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Fayard, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andelicher.